RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
Elle s'avança alors vers la traverse du lit, proche de la tête d'Holoferne. En détacha son cimeterre, puis s'approchant de la couche, elle saisit la chevelure de l'homme et dit « Rends-moi forte en ce jour, Seigneur, Dieu d'Israël ». Par deux fois, elle le frappa au cou de toute sa force et détacha la tête. Elle fit ensuite rouler le corps loin du lit et enleva la draperie des colonnes. Peu après, elle sortit et donna la tête d'Holoferne à sa servante qui la mit dans la besace à vivre. Ce passage n'est pas tiré d'un roman policier, mais bien d'un livre de la Bible, celui de Judith. Et c'est par cette figure féminine que nous commençons un cycle de trois émissions consacrées aux femmes de la Bible, pour mieux les connaître et surtout pour savoir comment ces personnages sont encore actuels et comment on peut s'en inspirer en 2021. Aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir Sylvaine Landrivon, théologienne, enseignante, féministe et autrice d'un ouvrage sur Judith au titre terrible « Faites les taire, Judith » aux éditions Olivier Temps, qui a été publié en 2014. Madame Landrivon, bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi ce titre? J'ai pas compris en le lisant la première fois.
Alors, le titre exact est « Faites les taire, Judith, un enseignement subversif ». Alors, c'est bien sûr un clin d'œil. Parce que, qui est-ce qu'il s'agit de faire taire? Est-ce que c'est ceux qui renient Dieu et qui ont pour projet d'éradiquer la foi au Dieu unique? Ou bien, est-ce que ce sont les femmes? Et là, vous avez dit que j'étais féministe, et en effet, je pense que la moitié du peuple de Dieu que constituent les femmes ont des compétences qui ne sont peut-être pas à négliger. Et dans cette histoire, nous allons voir que quand les prêtres et les soldats échouent, l'intervention féminine sauve la situation.
Alors, ne nous spoilez pas, Sylvaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de Judith et peut-être aussi plus tard l'histoire de son livre, parce que c'est rare qu'il y ait des noms de femmes dans les livres de la Bible. Il y en a même
bien
que
sûr.
Deux, je crois.
Mais ce qui est important de noter dans cette histoire, avant même de la commencer, c'est que la leçon de mixité qu'il offre mérite peut-être d'être méditée en ce moment. Alors, nous allons voir qui est Judith. La scène se déroule dans une ville imaginaire de Béthulie, assiégée par l'ennemi. Nabucodonosor a délégué son général Holoferne et la ville va capituler, faute de nourriture et d'eau.
Donc Béthulie, on est d'accord, c'est une ville juive.
Une ville juive, bien sûr, mais qui n'existe pas aujourd'hui sur la carte. Et dans cette ville assiégée, les prêtres ont prié en vain, les soldats sont défaits. Et c'est alors qu'une belle et jeune femme juive va proposer d'aller dans le camp adverse avec sa servante et elle va s'installer dans le camp, séduire Holoferne et profiter de la situation pour lui couper la tête, ensuite la brandir face aux ennemis et faire sauver la foi de son peuple en sauvant la ville de Béthulie.
À la découverte des origines juives du christianisme, nos frères aînés sur RCF.
Donc elle y va toute seule alors qu'il y a des armées partout et que les armées ont échoué. Donc
bien
c'est
sûr.
Le dernier recours, on va
voilà,
dire.
Voilà, c'est le dernier recours, parce que les prêtres ont en effet une sorte de chantage à Dieu qui n'a pas fonctionné. Et elle, en femme dynamique, se dit « moi, je vais proposer un autre stratagème ». Alors c'est un stratagème qui va montrer toute sa subversion. Et Paul Beauchamp explique que ce livre et cette aventure montrent à quel point on est à l'aise dans la démesure, parce que tout va être extraordinaire, tout va être à double sens, et va montrer l'importance de la puissance dans la faiblesse d'une femme, puisque les armées, c'était la puissance, n'ont pas réussi, les prêtres, le pouvoir de Dieu a échoué. On va voir comment la faiblesse peut trouver une force, et on voit évidemment tout de suite ici comment...
La force et la faiblesse, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard dans les textes
n'est-ce
bibliques.
Pas, dans l'action de Jésus le Christ.
Judith, c'est une femme qui est considérée comme faible et qui sauve son peuple, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et comment elle le sauve? Par la subversion. On voit que c'est une femme subversive dès le début. Elle est veuve.
Et ça, c'est un problème?
Et c'est un problème parce qu'elle ne veut pas d'autre mari. Et elle va donc refuser la loi du Lévirat.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la loi du Lévirat?
Le Lévirat consiste, quand une femme est veuve, à lui faire épouser un de ses beaux-frères pour conserver le patrimoine de la famille et et donner des héritiers. Elle refuse absolument ce système. Elle reste fidèle à son mari. Et une telle revendication d'autonomie sonne comme ce qu'on appelle un apax dans la Bible, c'est-à-dire que c'est un cas unique. Alors, il y a des cas un peu particuliers, et on voit par exemple que Tamar, la belle-fille de Judas, quand son mari meurt, elle épouse successivement ses beaux-frères, mais rien ne se passe et elle va utiliser une subversion terrible puisqu'elle se prostituera pour être enfantée par son beau-père et donner une succession à Judas. Donc la subversion de Judith, c'est pas le premier cas de subversion féminine dans la Bible, mais c'est toujours au service de sa foi, toujours au service de Dieu.
Alors ce personnage, il est subversif, il est un peu scandaleux finalement.
Oui, et puis en plus, non seulement il est subversif dans son attitude, puisqu'elle va utiliser sa séduction, sa beauté pour se défaire de l'ennemi, mais en plus elle se place en position d'autorité, ce qui n'est pas du tout courant dans le peuple juif, qu'une femme prenne le pouvoir comme ça. Parce qu'elle assume sa féminité, mais elle se débrouille pour être écoutée à la fois par les prêtres et à la fin pour gagner le combat, quelque part, contre le plus grand chef de l'armée ennemie. Donc, non seulement elle a des armes qui sont surprenantes, mais en plus, elle a une posture dans la société qui la met un peu en marge et qui inaugure quelque chose de ce que les femmes prendront comme autonomie, que nous retrouverons avec Marie, par exemple, qui décide de dire oui au moment de l'Annonciation, la Vierge Marie, alors que c'est une subversion totale, puisqu'elle n'est pas mariée et qu'elle va être enceinte sans mari.
Et alors, donc c'est la foi de Judith qui la sauve et qui sauve son peuple. C'est peut-être pour ça qu'elle peut être un modèle pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui.
Bien sûr, parce que si c'était simplement une femme, une virago, comme on dira plus tard, ça n'aurait qu'un intérêt très limité. Mais ce qui est important de voir, c'est ce paradoxe incroyable que constitue un instrument de Dieu qui triche, qui tue, qui séduit, avec une, comme toute arme en vérité, pour positiver tout ça, une foi inébranlable. Elle met tout, toute son action au service de Dieu et elle rapporte tout à son Dieu.
La foi justifie les moyens, finalement.
Tout ce qu'elle accomplit, elle le fait conformément à la volonté de son Seigneur. Son seul but face à Nabucodonosor, qui se prend pour un Dieu, consiste à faire connaître à toutes les nations ce que peut le Dieu unique. Nous savons en effet depuis le troisième chapitre que l'objectif d'Holoferne est, je cite le chapitre 3, d'exterminer tous les dieux de la terre afin que toutes les nations adorent Nabucodonosor et lui seul. Il faut donc mesurer la certitude qu'a cette femme de n'être qu'un outil entre les mains de Dieu. Et ça, elle le répète sans arrêt dans toute l'histoire. Elle le dit à peut-être 8 ou 9 reprises, qu'elle n'est que la main de Dieu, qu'elle est au service de Dieu.
Du coup, Judith, c'est une figure de femme juive. Comment elle est vue dans le christianisme, au-delà éventuellement du texte? Est-ce qu'elle est beaucoup lue? Est-ce que Judith est une figure qui est retravaillée par les chrétiens et les chrétiennes?
Alors, c'est la figure type de la juive, son prénom l'indique. Mais c'est un livre apocryphe pour les protestants, par exemple. Mm-hmm. Et dans l'Église catholique, c'est un livre qui est peu lu, peu commenté, parce qu'il est difficile. D'abord parce que tout le texte travaille sur le double sens.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Oui. Elle, par exemple, elle n'est plus vierge, mais elle n'a pas de mari. C'est une femme qui n'a pas de descendance. Elle est pieuse, mais elle ne respecte pas les coutumes du veuvage. Elle est libre devant le conseil des anciens, mais elle ment comme elle respire quand elle parle à Holoferne. Elle est humble, mais autoritaire et assez pour prendre la direction d'une opération extrêmement dangereuse. Et son art du double langage est un modèle de finesse quand on lit bien le texte. Parce qu'avec Holoferne, elle pousse l'ironie jusqu'à lui annoncer carrément ce qui va lui arriver.
Elle lui dit « je vais te couper la tête ?»
Presque. Elle lui dit « Dieu m'a envoyé réaliser avec toi des affaires dont toute la terre sera stupéfaite. » Et pour cause. Et elle va jusqu'au point de « je m'accabre » au verset 19 du chapitre 11, quand elle lui annonce comment elle le conduira dans toute la Judée sans qu'aucun chien n'aboie sur son passage. Et pour cause, elle ne transportera que sa tête au fond d'un sac, donc les chiens ne verront pas tellement l'ennemi. Mais tout ce double langage montre qu'à aucun moment elle ne perd le contrôle de la situation. C'est vraiment comme ça qu'il faut lire l'histoire d'une femme qui fait signe vers la puissance de Dieu, logée au cœur de celle qui n'était pas considérée du tout dans le peuple de Dieu, puisque c'était une femme, une veuve, qui en plus ne respectait pas les codes. Donc théoriquement, bon, elle était riche, elle était belle, elle était jeune, mais enfin elle n'avait aucun pouvoir théoriquement pour réaliser l'exploit qu'elle a réalisé, et pourtant. Et on retrouve un peu de ce message de la puissance dans la faiblesse exprimé par les théologiens contemporains. Je pense à Jürgen Moltmann dans « Le Dieu crucifié » qui nous montre comment la question du renoncement à soi-même par solidarité pour les autres dans une situation politique déterminée peut montrer comment suivre le Christ. C'est une leçon pour nous. C'est comme ça qu'il explique que la religion de la croix produit le scandale. Un scandale comme celui qu'a pu provoquer Judith. Et c'est justement par le scandale qu'on apporte la libération à un monde aliéné. Donc il faut oser le scandale, il faut oser le modèle de Judith. C'est pour ça que je me suis permis d'écrire un livre là-dessus.
Merci beaucoup Sylvaine Landrivon pour ce parcours dans la vie de Judith. On peut retrouver vos livres, alors il y en a un sur Judith, un sur Marie-Madeleine, un sur l'enfantement dans toutes les bonnes librairies et d'autres encore. Vous êtes très active dans plusieurs associations qui prônent une place plus importante pour les femmes dans l'église, donc on peut vous retrouver dans différents endroits. Et la semaine prochaine, dans Nos Frères Aînés sur RCF, nous parlerons encore des femmes de la Bible avec une nouvelle invitée, Madame Ruth Wasana. Bonne journée à tous et toutes, et bonne écoute d'RCF.